minuit à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette demi-heure d'information consacrée à l'actualité française.
Christophe Paget.
À la une de cette édition, la fille du Premier ministre François Bayrou, qui explique dans un livre à paraître demain les violences infligées lors d'un camp d'été par un curé qui officiait dans le collège de filles de Notre-Dame de Bétarame. « Mon père n'était pas au courant », souligne-t-elle. François Bayrou, qui doit être entendu le 14 mai par une commission d'enquête parlementaire. À suivre aussi dans une douzaine de minutes après le journal, le reportage de Marie Cazadebé sur les langues qui se délient et les autres scandales qui éclatent depuis celui de Bétarame. ArcelorMittal annonce un vaste plan de suppression de postes en France. 600 emplois sont menacés sur sept sites industriels du Grand Nord du pays. Le deuxième sidérurgiste mondial invoque la crise de l'acier en Europe. Et puis le Larousse et ses 150 nouveaux mots, locutions ou expressions qui font leur entrée dans l'édition 2026. Ce sera avec Olivier Roger. On se penchera aussi d'ici une vingtaine de minutes sur l'érosion des côtes en Martinique. Ce sera évidemment dans le journal de l'Outre-mer.
RFI.
Ça me poignarde le cœur, la réaction du Premier ministre français François Bayrou après les déclarations de sa fille. Hélène Perlon affirme dans un livre publié ce jeudi qu'elle a été passée à tabac lorsqu'elle était adolescente dans un camp d'été, camp organisé par la congrégation à laquelle appartient l'établissement scolaire catholique Notre-Dame de Bétarame. Écoutez François Bayrou.
En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur, même si c'est une affaire très ancienne, que on ne l'ait pas su et que des dérives de cet ordre aient eu lieu, pour moi c'est presque insupportable.
Votre fille, vous en avez jamais parlé?
Non, pourtant je parle très souvent avec elle, mais comme vous savez, tous les parents sont comme ça. Mes enfants sont comme la prunelle de mes yeux, chacun d'entre eux. Et donc elle en premier, puisque c'est l'aînée de... on parle de tas de choses, elle n'avait jamais parlé de ça.
François Bayrou, le Premier ministre, doit être entendu le 14 mai par la commission d'enquête parlementaire sur les violences et les contrôles de l'État dans les établissements scolaires. La gauche l'accuse d'avoir menti sur sa connaissance des violences et des agressions sexuelles à Notre-Dame de Bétarame. À Lille, le lycée Averroès retrouve, lui, le contrat d'association qui le liait à l'État. La justice française l'a rétabli ce mercredi. Cet établissement musulman avait perdu son agrément en 2023. La préfecture du Nord l'avait résilié pour manquement grave aux principes fondamentaux de la République. Une injustice, selon l'association gérant le lycée, et de fait, le tribunal administratif a donc jugé que ces manquements n'étaient pas prouvés et que, de plus, la procédure était entachée d'irrégularités. Le député insoumis Paul Vanier, coprésident de la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire.
Le lycée Averroès était le second établissement depuis 1959 à voir son contrat d'association rompu et rompu dans des circonstances d'une extrême brutalité. Il faut constater que les contrôles se concentrent de façon exceptionnelle dans les établissements privés musulmans sous contrat. 14 dans le lycée Averroès, 9 dans la cité scolaire Al-Kindi dans le Rhône, alors que ces contrôles sont quasiment inexistants ailleurs, notamment dans les établissements privés sous contrat qui relèvent d'autres réseaux et en particulier du réseau catholique. Et donc je me réjouis de cette décision judiciaire qui, au fond, fait prévaloir un principe républicain fondamental, l'égalité de traitement de tous devant la loi.
Le député insoumis Paul Vanier au micro d'Aurélien Devernois.
24 heures en France.
On le sait, la sidérurgie européenne est en crise et c'est dans ce contexte difficile qu'ArcelorMittal, le deuxième sidérurgiste mondial, annonce un vaste plan de suppression de postes en France. 600 emplois sont menacés sur 7 sites industriels du Grand Nord du pays. ArcelorMittal se justifie en arguant justement de la crise de l'acier en Europe. En tout cas, c'est un choc pour les salariés. Nicolas Feldman.
En particulier sur le site le plus touché, Dunkerque, dans le nord de la France, 177 emplois menacés. Gaëtan Lecoq, secrétaire général CGT de l'acierie.
Là, on est en train de nous casser le bras et puis on va nous casser les deux pattes. Si on veut tuer nos usines, on peut pas s'y prendre mieux. Voilà. Donc, on supprime des emplois dans la maintenance, dans des fonctions qui sont là pour la sûreté industrielle de nos sites. Ce qu'on redoutait est en train de se produire.
La direction d'ArcelorMittal explique ses suppressions de postes par la crise de l'acier en Europe. La demande sur le continent a baissé de 20% en 5 ans et les importations d'acier sont en hausse. Ce plan de restructuration a donc pour but, dit le groupe, d'assurer sa compétitivité future. Inacceptable, répond l'élu CGT.
Tout ça, c'est de la mascarade. On n'est pas une société déficitaire si on produit en France. De toute façon, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent quitter la France, l'Europe, pour faire leur acier en Inde et au Brésil, où les normes environnementales et sociales sont beaucoup moins importantes que les normes françaises et européennes.
ArcelorMittal, numéro 2 mondial de l'acier, doit annoncer ses résultats pour le premier trimestre la semaine prochaine. En attendant, les syndicats promettent de rester mobilisés.
Nicolas Feldman, on se rend maintenant devant la cour criminelle du Morbihan, à Vannes, dans l'ouest du pays, où le procès de Joël Le Skouarnec se poursuit. L'ex-chirurgien est jugé pour viol et agression sexuelle commis entre 1989 et 2014 sur plus de 300 patients dans plusieurs hôpitaux de l'ouest de la France où il exerçait. Ce mercredi, plusieurs victimes ont à nouveau témoigné à la barre. C'est le cas de celui que nous appellerons Antoine, hospitalisé en 2006 dans la ville de Quimperlé. Un témoignage qui illustre la toute-puissance de Joël Le Skouarnec au sein de l'hôpital et les répercussions de ces abus sur des familles entières. Baptiste Coulon.
Quand Antoine arrive à l'hôpital de Quimperlé un matin d'avril 2006, c'est pour y être opéré d'un banal kyste au niveau du nombril. À son réveil, l'après-midi, il se souvient de visites répétées de Joël Le Skouarnec dans sa chambre. Il m'a demandé si mon pansement saignait, puis m'a fait subir une masturbation. L'enfant de 12 ans fait un malaise, alors sa mère est rappelée sur place. Le chirurgien souhaite qu'il reste en observation pour la nuit. Antoine ne veut pas. J'ai dit que je le surveillerai à la maison, raconte sa mère à la barre. Mais le docteur Le Skouarnec a insisté pour le garder. Il a dit que c'était le protocole. Antoine est en pleurs quand sa mère quitte l'établissement. « Aujourd'hui, je me sens encore coupable, dit-elle. Comment pouvait-il me faire confiance désormais ?» Antoine raconte sa colère sans pareil, la distance qui s'installe avec son père et surtout sa mère. « J'en voulais même à son chien qu'elle a préféré promener au lieu de rester avec moi. » Aujourd'hui âgé de 31 ans, l'homme dit avoir passé le plus dur, assure être bien entouré. Sa mère abonde, nous retournons ensemble à la piscine, il m'appelle à nouveau maman.
Baptiste Coulon, les suites de la condamnation de Marine Le Pen et d'autres eurodéputés. Le Parlement européen a indiqué aujourd'hui avoir réclamé au Rassemblement national et à l'ensemble des partis condamnés dans l'affaire des assistants parlementaires les quelque 3,5 millions d'euros de dommages et intérêts fixés par le tribunal correctionnel de Paris. Le RN et 12 personnes condamnées ont fait appel, mais la décision du tribunal avait bien précisé qu'un appel ne serait pas suspensif. Le secteur de la culture, victime de l'austérité budgétaire, et pour que les Français en prennent conscience, fin mars, l'Observatoire des politiques culturelles a mis en place un nouvel outil collaboratif, ça s'appelle la carte aux crises. Explication Nour Marzougui.
Les déprogrammations s'enchaînent, les structures se fragilisent et depuis 2 ans, le monde de la culture voit ses budgets fondre comme neige au soleil. Pour rendre visible l'ampleur de cette crise, l'Observatoire des politiques culturelles a lancé un outil collaboratif, la carte aux crises, une carte interactive sur laquelle les institutions culturelles se géolocalisent et indiquent la baisse de budget qu'elles ont subie cette année. Alice Anjan, qui travaille pour l'Observatoire, déplore cette baisse généralisée.
On se rend compte que l'ensemble du territoire national, et on voit bien sur la carte, est touché, avec certaines régions où il y a davantage de points, par exemple en région Pays de la Loire, avec des annonces de baisse de budget de moins 62%, donc avec effectivement des impacts très très directs.
En France, les collectivités territoriales financent la culture, mais elles n'y sont pas obligées. Résultat, quand les budgets se resserrent, la culture est la première touchée. Alors si le secteur public est défaillant, le secteur privé peut-il représenter sa bouée de sauvetage ?
Il n'y aura pas forcément de relais privé, donc ça s'annonce quand même plutôt catastrophique. Je ne saurais dire comment sauver le secteur culturel, mais il est sûr que la situation est très alarmante.
Et pour ne rien arranger, le secteur de la culture est sous le feu des critiques de l'extrême droite et d'une partie de la droite.
Nicolas de Taverneau devient le directeur général de LFP Média, c'est la société qui gère la Ligue de football professionnel. Et Nicolas de Taverneau, c'est aussi l'ancien président du groupe M6 et ancien propriétaire des Girondins de Bordeaux. À son nouveau poste, il va avoir fort à faire, puisque DAZN, la plateforme de streaming britannique qui diffuse des matchs de Ligue 1, est allée devant la justice pour réclamer à LFP 573 millions d'euros pour tromperie sur la marchandise. Disons qu'il y a moins de spectateurs pour les matchs diffusés que prévu. En judo, le français Daiki Bouba devient champion d'Europe des moins de 66 kilos. Pour la première fois, il l'a emporté face au russe Mourad Tchopanov. Par contre, c'est la quatrième fois que la française Shirin Boukli, 26 ans, est sacrée championne d'Europe des moins de 48 kilos face à la portugaise Catarina Costa. On termine avec le nouveau Larousse, l'édition 2026 et les 150 nouveaux mots, locutions ou expressions qui y font leur entrée. Des mots qui traduisent l'évolution de notre société, la vitalité de la francophonie. Pour autant, il y en a peut-être certains que vous ne connaissez pas. Olivier Roger nous explique tout cela.
Qui n'a pas rêvé de pratiquer le glamping, autrement dit le camping glamour, plus luxueux que la bonne vieille tente quechua. Et si le glampeur a emporté son ordinateur, il pourra regarder une dramédie, genre hybride mêlant le drame et la comédie. Avant, on appelait cela une comédie dramatique, mais voilà, tout évolue, on ne va pas bader pour si peu. Bader, qui vient de l'anglais bad et signifie s'attrister, a lui aussi fait son entrée dans le dictionnaire. L'anglais fournit chaque année son lot de néologismes à la langue française. C'est le cas de food truck, l'ancienne bar à frites, de même que les questions environnementales, biopesticides, autrement dit un pesticide naturel. Pour choisir ces mots, Larousse s'appuie sur deux critères. Le terme doit être partagé par plusieurs professions ou plusieurs générations et surtout circuler dans le langage courant. À cet égard, le mot de l'année est indéniablement le fameux prompt, la suite d'instructions dictées à une intelligence artificielle pour qu'elle travaille à votre place. Par exemple, rédige-moi un papier drôle et bien écrit sur les nouveaux mots du dictionnaire, en quelque sorte pour les journalistes, le mot de la fin.
Olivier Roger, RFI, minuit 11 à Paris.
24 heures en France.
Christophe Paget.
Cash Me Online, c'est le titre de l'installation vidéo que l'on peut retrouver en ce moment à la Maison Européenne de la Photographie à Paris. Une installation sur la quête frénétique de notoriété via les réseaux sociaux. Un mélange vidéo d'archives TikTok et de performances personnelles pour faire réfléchir, sourire et déranger. L'artiste Amandine Kuhlmann au micro d'Isabelle Chenu.
So pick me, choose me. Love me.
Bonjour Amandine Kuhlmann.
Bonjour Isabelle.
On est ici à la Maison Européenne de la Photographie où vous exposez une installation à la fois vidéo et performance. Mm-hmm. Où vous êtes filmée, vous vous êtes créé un personnage fictif qui veut devenir populaire sur les réseaux sociaux. C'est une jeune femme qui veut correspondre à une sorte de perfection.
Une perfection, pas forcément, mais des standards imposés, notamment sur la féminité. Le spectateur va vraiment me suivre dans mon épopée, dans ma quête de reconnaissance. J'ai vraiment cherché à faire un parallèle donc sur une jeune femme qui veut, entre guillemets, percer sur les réseaux sociaux, mais aussi en tant qu'artiste, en tant que femme, le procédé reste assez similaire finalement et assez cruel, cette quête et cette demande de reconnaissance. Je me suis inspirée un peu du personnage du clown, ce clown triste et aussi absurde, en mélangeant l'absurdité et le désespoir. On passe du rire aux larmes pour créer une certaine tension et montrer la différence entre la façade et ce qui peut se passer derrière toutes ces mises en scène au final.
Vous parliez, Amandine Kuhlmann, de cruauté au sujet de ces jeunes femmes qui veulent percer sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des codes. Il y a une dizaine de commandements, alors on ne va pas tous les donner, mais en tout cas il y a des règles très précises auxquelles on doit se plier.
J'ai appliqué ça de manière assez littérale en embauchant un coach en réseaux sociaux, en lui demandant quelles sont les règles pour pouvoir réussir. Dans la vidéo, on peut vraiment entendre ces règles dictées par une voix off et ça divise vraiment le projet en chapitres.
La voix off, c'est un homme.
Tout à fait, c'est la seule voix masculine qu'on entendra dans tout le projet finalement.
Est-ce que ce travail, cette installation, cette vidéo, Amandine Kuhlmann, est une critique de la marchandisation du corps des femmes sur les réseaux sociaux ?
En tant que femme, si on veut réussir, jusqu'où on doit aller pour atteindre un but, pour satisfaire un regard masculin, satisfaire un système masculin ? Par exemple, le fait d'être en bikini me vaut une exposition.
Alors vous, Amandine Kuhlmann, vous avez grandi avec les réseaux sociaux. Quand on regarde votre installation Catch Me Online, votre avatar qui est sur ces vidéos, au final, on est quand même assez hypnotisé et s'en dégage une forme de tristesse.
J'ai vraiment cherché à ce que le public ressente une sensation de malaise, attrayant esthétiquement. Notre œil a du mal à se détacher des vidéos et en même temps jouer sur l'aspect un peu pathétique de cette quête. C'est pas forcément pour critiquer les personnes qui sont à la recherche de cette validation, c'est plus pour montrer encore une fois un système, c'est-à-dire que effectivement on court parfois après quelque chose qui n'est pas forcément atteignable alors qu'on nous dit que c'est accessible à tous.
Merci beaucoup Amandine Kullman.
Merci à vous.
Amandine Kullman au micro d'Isabelle Chenu. Cash Me Online est à voir à la Maison Européenne de la Photographie et à attendre aussi à Paris jusqu'au 18 mai. On va maintenant revenir sur l'affaire Betaram. D'abord sur son lanceur d'alerte, celui qui a brisé une omerta de 60 ans sur cet établissement privé catholique du sud-ouest de la France, Alain Esquer. Le fondateur du collectif des victimes publie ce jeudi un livre coécrit avec une journaliste, Le silence de Betaram. Un livre dans lequel témoigne notamment la fille aînée du Premier ministre François Bayrou, on en a parlé dans le journal. Ce livre, c'est le fruit de 18 mois d'une quête de vérité auprès des anciens élèves de l'établissement, d'une alerte lancée dans la presse début février et de la saisie de l'affaire par la justice. Plus de 200 plaintes ont été déposées allant de violences physiques à des viols. Depuis cette affaire Betaram, les langues se délient ailleurs, dans d'autres établissements privés, d'autres scandales éclatent. Un effet boule de neige que nous raconte Marie Casadebé.
Alors, j'en reçois sur plein de réseaux différents en fait.
Constance Bertrand sort de son sac son ordinateur portable.
J'en ai eu encore ce week-end.
Depuis un mois et demi, cette quadragénaire reçoit quasi quotidiennement des récits d'anciens élèves de l'établissement privé catholique où elle a été scolarisée.
À l'origine, on a ouvert ce groupe Facebook parce qu'on apprend le 3 mars qu'un surveillant de Betaram a poursuivi sa carrière directement après Betaram à Saint-Dominique-de-Neuilly.
Mais les messages qui affluent ne concernent pas seulement ce surveillant.
En 5 jours, on obtient des témoignages de choses gravissimes sur 6 personnes.
Des accusations de violences physiques, psychologiques, d'agressions sexuelles et de viols. Beaucoup sont anonymes, publiés en messages privés. Constance, qui elle-même a été victime de harcèlement, décide alors de témoigner à visage découvert.
J'ai trouvé que c'était important de le faire pour que les gens sachent à qui ils s'adressaient. Et puis les témoignages arrivent. Ça, c'est mon cahier des horreurs, en fait. Je suis obligée de prendre des notes pour ne pas mélanger les témoignages, etc.
Une cinquantaine de victimes sont déjà sorties du silence pour des faits allant des années 80 au début des années 2000.
Une maîtresse qui arrache l'oreille d'une petite fille, une maîtresse qui donne des coups de poing dans la tête d'un enfant, un maître qui caresse des enfants sous la jupe. Les parents ont la plupart du temps fait des démarches auprès de l'institution, mais l'institution ne les a pas soutenus.
Combien alors vous avez répertorié de personnes accusées de violence?
On en est à une dizaine. On a des enseignants, des surveillants, des prêtres aumôniers, les censeurs. Censeur, c'est le responsable de la discipline.
5 plaintes ont été déposées, dont une pour viol.
On a maltraité tout court, s'il vous plaît. Un peu de courage.
Le 20 mars dernier, ensuite, Constance Bertrand prend la parole devant la commission d'enquête parlementaire mise en place fin février suite au scandale de Notre-Dame de Betaram. Depuis, cette commission a enregistré des signalements dans 17 départements. Pour Arnaud Gallet, président de l'association de protection de l'enfance Move Enfant, un double phénomène explique ces révélations en cascade.
Un, vous avez le pouvoir d'identification, c'est-à-dire que les victimes s'identifient entre elles et ça leur permet de parler parce qu'elles vont se dire bah, « tiens, c'est ce que j'ai vécu ». Le second élément est quand même extrêmement politique. Le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église en 2021, il disait que 108 000 enfants ont été victimes de violences sexuelles dans des établissements privés. Et personne ne fait rien. Du coup, vous avez une colère en fait qui vient, c'est-à-dire que les enfants ou les enfants devenus grands ont parlé, mais on ne les a pas protégés.
Ce MeToo de l'enseignement pourrait bien dépasser le secteur privé catholique. Pour la première fois ce mardi, la commission d'enquête s'est rendue dans un lycée public où un enseignant visé par plusieurs plaintes s'est suicidé fin 2023.
Un reportage de Marie Casadebé.
Le journal des Outre-mer.
Et à la une de ce journal, un sujet dont on parle partout dans le monde, partout en tout cas, où il y a des façades maritimes, l'érosion, lente mais inexorable, du trait de côte. Benoît Ferrand, bonsoir.
Bonsoir. En Martinique, petit pays insulaire et donc cerné par l'océan, le phénomène serait hélas de plus en plus visible, notamment dans le Nord Caraïbe. Autrement dit, la côte nord-ouest de l'île des Antilles. Reportage Mike Irasque.
À Lanscola, dans la commune de Schœlcher, la mer est à une quinzaine de mètres des maisons. Cédric habite là depuis plus de 20 ans.
Le trait de côte a bougé plus d'une fois, suivant les problèmes climatiques. Bien évidemment, la côte Caraïbe. On a fait les frais, quoi, de béryl. Donc ça, c'est le dernier phénomène qui nous a fait un gros recul de côte, mais ça revient. La houle évolue, les marées évoluent, et ça nous ramène forcément du sable également. En quelques mois, on a récupéré la plage.
Parmi les professionnels du bord de mer qui subissent l'érosion du littoral, le restaurateur Guy Ferdinand décrit son expérience entre lucidité et résignation.
En 20 ans, on a perdu à peu près 12 mètres sur le littoral et donc nous, on recule jusqu'au jour où il faudra qu'on déménage.
Est-ce qu'il existe des solutions pour freiner un phénomène souvent décrit comme irréversible ? Pour Guy Ferdinand, il y a peut-être une piste, mais le restaurateur s'interroge à bien plus long terme.
Le seul truc qui a marché, c'est les Sables d'Olonne qui ont fait ça. Donc ils ont fait un réensablement qui a plutôt bien fonctionné. Après, ça coûte un peu d'argent, alors je ne suis pas sûr que ni la collectivité ni les privés ne pourront rien sabler. Nous, au Corbet, on a perdu 10 mètres, mais les salines ont perdu 40 mètres. Le Diamant a dû perdre 40 mètres à peu près. Donc, il va nous falloir aussi inverser notre tourisme.
Vivre avec l'érosion du littoral quand on est un professionnel travaillant en bord de mer, le restaurateur résume cette réalité par cette formule, devenue une obligation pour beaucoup.
C'est vraiment une joie de travailler sur ce littoral martiniquais, mais ça implique aussi de se réinventer tous les jours.
Une question maintenant, la pauvreté serait-elle en train de gagner du terrain en Nouvelle-Calédonie ? C'est en tout cas ce que constatent sur le terrain, comme on dit, les organisations caritatives du Caillou. Reportage Charlotte Mestre.
De 391 foyers aidés sur l'ensemble de l'année 2023, le Secours catholique est passé à 300 pour le seul premier trimestre 2025. Même constat à Saint-Vincent-de-Paul, où déjà près de 700 colis alimentaires ont été distribués depuis le début de l'année, contre 1200 pour tout 2024. Une hausse dramatique du nombre de bénéficiaires qui s'accompagne d'une évolution de leur niveau social, comme a pu le constater Marie-Françoise Méhoun, présidente du Secours catholique.
On parle des petits salaires, des foyers qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Effectivement, ce sont des gens pour qui, aujourd'hui, on apporte un appoint en termes d'alimentation dans le mois. C'est vraiment crucial pour elles.
Il a fallu se contraindre à imposer des critères pour bénéficier des aides. Isabelle Gau, présidente de la société Saint-Vincent-de-Paul.
On travaille beaucoup avec les assistantes sociales et les institutions, de façon à ne pas avoir du tout venant aussi, parce que ça ne serait pas gérable. Mais il arrive aussi qu'il y ait des gens qui viennent comme ça chez nous. Et en étudiant la chose avec des justificatifs, on aide aussi, bien sûr, on aide le mieux qu'on peut.
Les conséquences de cette paupérisation des ménages vont plus loin que le simple aspect financier, mais là aussi, les associations caritatives tentent d'aider Elisabeth Gau.
J'ai beaucoup de bénévoles démunis aussi qui viennent là pour garder un lien social. Ils sont au chômage, ils n'ont plus rien, ils ont perdu leur maison, donc ils viennent, ils gardent un lien social, ils se remettent dans une vie normale, je dirais.
Avec la baisse des subventions, le Secours catholique et Saint-Vincent-de-Paul dépendent de plus en plus des dons des particuliers et des sociétés. Le vote de la loi contre le gaspillage alimentaire pourrait les aider à tenir le coup. Les associations l'espèrent pour le courant de l'année.
On termine cette édition à l'île de la Réunion avec le ministre de la Santé qui a visité ce mercredi le centre hospitalier de Saint-Pierre dans le sud, là où un petit bébé d'un mois a récemment succombé des suites, selon toute vraisemblance, du chikungunya. L'occasion pour Yannick Neuder d'évoquer le démarrage encore trop timide de la campagne de vaccination, alors que 4304 nouveaux cas de chik ont été confirmés en une semaine. Yannick Neuder est au micro de Suzanne Théma.
C'est difficile de dire si on aurait pu aller plus vite parce que ce vaccin, c'est le premier pays au monde où nous pouvons mettre à disposition ce vaccin. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé étaient publiées il y a un mois, donc le temps d'acheter les doses. On a acheté l'ensemble des doses qui sont disponibles sur le marché mondial. On sait très bien que c'est un vaccin qui, par ailleurs, n'est pas recommandé chez la femme enceinte. Et concernant les nouveau-nés, eh bien, on fait un maximum pour pouvoir distribuer des moustiquaires, pour pouvoir protéger les piqûres. Et puis on travaille aussi avec le centre de transfusion sanguine, le FS, pour envisager de voir si on peut produire des anticorps pour pouvoir protéger les nouveau-nés quand ils ont une contamination in utero.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Bonne soirée, Benoît Ferrand.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Et Caroline Paré se penche avec son invité sur la santé cardiaque.
Professeur Jacques Blacher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris, où vous êtes chef de service du centre de diagnostic et de thérapeutique. Quelles sont les meilleures conditions pour mesurer la tension artérielle?
Le repos. Il faut mesurer sa pression artérielle au repos. Donc ça veut dire qu'on reste assis à son bureau pendant 5 minutes à ne rien faire. On n'a pas mangé avant, on n'a pas bu avant, on n'a pas pris de café, on n'a pas fumé de cigarette. Et puis on mesure 3 fois de suite la pression artérielle et on prend la moyenne de ces 3 mesures. Si c'est au-dessus de 140-90, eh bien on a une hypertension artérielle.
Est-ce qu'il y a d'autres moyens, à part les médicaments, pour amener sa tension à des chiffres normaux, sans danger pour la santé?
Bien sûr, et ces moyens sont souvent ceux qu'on va utiliser en premier avant de mettre en place des médicaments. Il y en a 5. Premièrement, réduire sa consommation de sel si on en mange de trop. Et 90% de la population française en mange de trop. On mange actuellement entre 8 grammes et 10 grammes de sel par jour, on devrait en manger la moitié. Deuxièmement, perdre du poids si on est au-dessus de son poids idéal, de 25 d'indice de masse corporelle. Troisièmement, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Ça a un effet direct sur la pression artérielle. Quatrièmement, réduire sa consommation d'alcool si on en boit de trop, plus de 10 unités par semaine. Et puis, dernièrement, l'activité physique, et c'est le point absolument central. Plus vous faites d'activité physique, plus vous baissez votre pression artérielle, et toute activité physique est bonne à prendre.
Merci professeur Blacher. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on parle de l'impact des résidus de médicaments sur l'environnement, comment limiter, comment surveiller la présence de ces substances dans les eaux usées. 9h10, 1h10, c'est l'heure de l'émission et vous pouvez écouter Priorité Santé à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Caroline Paré. Alors ça n'est pas très bon pour le cœur, mais sachez que la France a récupéré ce jeudi le record du plus grand fraisier du monde, 121,88 m. Pour cela, il a fallu 350 kg de fraises, 150 de sucre, 415 de crème pâtissière, 4000 œufs pour un fraisier français d'une tonne d'œufs. Une pâtisserie légère donc. D'ailleurs à RFI, à Fraise, hein, dans les Vosges, il est minuit 26. Et c'est la fin de 24 heures en France. Merci à Mel Guillot à la réalisation, à Charlotte Derouin à la rédaction en chef. Dans quelques instants, c'est l'heure d'Afrique Soir, ce sera avec Sylvie Berruet. Mais avant cela, comme chaque soir, on part à New York pour la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
La tendance haussière s'est essoufflée en fin de séance, mais le Dow Jones poursuit son redressement. Il regagne 420 points. Et revient à 39 607. L'indice du Nasdaq récupère 408 points et se hisse à 16 708 en faisant marche arrière sur deux dossiers qui ont alarmé les investisseurs. Donald Trump a remis Wall Street dans le sens de la marche. Première reculade, le président américain abandonne l'idée défendue depuis quelques jours de limoger le patron de la Réserve fédérale. Il continue pour autant à le critiquer. Jerome Powell, selon lui, peut provoquer une récession s'il ne réduit pas immédiatement le taux directeur de la Fed. Cette critique explicite de la politique monétaire, politique théoriquement indépendante de la Maison-Blanche, pourrait se révéler contre-productive. Deuxième revirement, les droits de douane applicables aux produits chinois, tout juste majorés massivement, seront abaissés comme condition de l'amorce de négociations avec Pékin. Pour l'instant, on attend la réponse du gouvernement chinois. Les marchés d'actions reprennent un peu de leur couleur dans l'espoir d'une vraie désescalade de la guerre commerciale. Des valeurs comme Amazon, gros importateur de produits chinois, mais aussi Boeing, Nvidia et Apple, sociétés qui dépendent du marché chinois, figurent parmi les plus nettes hausses au sein du Dow Jones. L'or perd près de 4%, ce qui est un signe de recul de l'inquiétude. L'euro retombe à 1,1322 $. Le baril américain de pétrole perd plus de 2% pour finir à un peu plus de 62 $. L'OPEP et la Russie envisagent d'augmenter leur production de pétrole. Le Dow Jones aujourd'hui reprend un peu plus d'1% et le Nasdaq récupère 2,5%.
RFI. Les voix du monde. Appelez-nous, exprimez-vous.
Namoury Dosso.
À 7 mois de la présidentielle en Centrafrique, le pouvoir veut lancer un dialogue politique avec l'opposition qui est vent debout contre une éventuelle troisième candidature du président. Que vous inspire cette initiative? On attend vos réactions.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Demain sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
À la lisière d'une forêt dans les Vosges, un pianiste célèbre rend visite à une écrivaine solitaire. Le temps de vivre une passion platonique et de s'enivrer de la nature. Il neige sur le pianiste de Claudie Hunsinger est un éloge vibrant de l'art et du vivant.
Les langues s'expriment de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.